Lorsqu'ils en vinrent à la population, ils ne trouvèrent plus un terrain aussi uni que dans leur géométrie. Ici, leur arithmétique eut à s'exercer sur leur métaphysique juridique. S'ils s'en fussent tenus à leurs principes métaphysiques, le procédé arithmétique aurait été bien simple. Les hommes, selon eux, sont strictement égaux et appelés à des droits égaux dans leur gouvernement. Chaque tête, dans ce système, aurait son vote, et chaque homme voterait directement pour son représentant dans la législature. Ce principe métaphysique, auquel la loi, la coutume, l'usage, la politique et la raison devaient céder, doit céder lui-même à leur fantaisie. Il doit y avoir plusieurs degrés et quelques relais avant que le représentant puisse être en contact avec son constituant. Ces deux personnes, comme nous le verrons bientôt, n'auront entre elles aucune sorte de rapport. D'abord les votants dans chaque municipalité, qui composent ce qu'ils appellent les assemblées primaires, doivent avoir une certaine qualification. Quoi ? Une qualification, malgré les droits imprescriptibles de l'homme ? Oui, mais une très faible. Notre injustice sera peu oppressive. Seulement, évaluation locale de 3 journées de travail payées au trésor public. Vraiment, ceci n'est pas grand-chose, j'en conviens. Mais c'est tout ce qu'il faut pour déroger à votre grand principe d'égalité. Considéré comme qualification, l'on pourrait tout aussi bien s'en passer, car celle-ci ne répond à aucune des fins pour lesquelles les qualifications sont établies. Et dans votre système, elle exclut du droit de voter l'homme qui, parmi tous les autres dont l'égalité naturelle a le plus besoin de protection et de défense, je veux dire l'homme qui n'est protégé par autre chose que par son égalité naturelle. Vous lui ordonnez d'acheter le droit que peu auparavant vous lui aviez dit que la nature lui avait donné gratuitement à sa naissance et dont aucune autorité sur la terre ne pouvait légalement le priver. Ainsi donc, vous qui vous prétendez les ennemis jurés de l'aristocratie, vous en exercez une tyrannique contre celui qui ne peut pas aller jusqu'à la hauteur de votre marché. La gradation continue. Ces assemblées primaires de chaque commune élisent des députés pour les cantons, 1 sur 200 citoyens actifs. Voilà le premier intermédiaire entre l'électeur primaire et le représentant législatif. Et ici, un second péage est établi pour taxer les droits de l'homme par une seconde qualification. Car personne ne peut être admis à cette assemblée des cantons sans payer la valeur de 10 journées de travail. Mais ce n'est pas tout. Nous avons encore une autre gradation. Ces cantons, choisis par les municipalités, élisent pour le département. Et les députés du département choisissent enfin leurs députés à l'Assemblée nationale. Ici est une troisième barrière d'une autre qualification tout aussi insensée. Chaque député à l'Assemblée nationale doit payer, en contribution directe, la valeur d'un marc d'argent. L'opinion qu'il faut avoir de toutes ces barrières qualificatives, c'est qu'elles sont insuffisantes pour assurer l'indépendance et qu'elles n'ont de force que pour détruire les droits de l'homme. Dans tous ces procédés, dont les éléments fondamentaux ne doivent porter que sur la population, considérée comme un principe de droit naturel, on accorde une attention manifeste à la propriété qui, quoique juste et raisonnable dans d'autres plans, est insupportable dans ceux qu'ils ont adoptés. Lorsque nous arrivons à la troisième base, à celle de la contribution, nous trouvons qu'ils ont bien plus complètement encore perdu de vue leurs droits de l'homme. Cette dernière base repose entièrement sur la propriété. Voilà donc que l'on admet un principe qui s'écarte totalement de l'égalité des hommes, avec laquelle même il ne peut pas se concilier. Mais ce principe n'a pas été plutôt admis que, suivant la coutume, il est renversé. Et il n'est pas renversé, comme nous allons le voir présentement, pour rapprocher du niveau de la nature l'inégalité des richesses. La part additionnelle, dans la troisième classe de la représentation, classe réservée exclusivement pour les contributions les plus hautes, n'est ajoutée qu'à l'égard du district seulement, et non pas à l'égard des individus qui y fournirent leur part. Il est aisé d'apercevoir par la suite de leur raisonnement combien ils étaient embarrassés par leurs idées contradictoires entre les droits de l'homme et les privilèges des richesses. Ce que fait le comité de constitution équivaut à un aveu sur l'impossibilité de concilier l'un avec l'autre. Guillemets. Le rapport à l'égard des contributions est sans aucun doute nul, disent-ils, lorsqu'il s'agit de balancer les droits politiques d'individu à individu, sans quoi l'égalité personnelle serait détruite, et il s'établirait une aristocratie de richesse. Mais cet inconvénient disparaît entièrement lorsque l'on considère, dans les grandes masses seulement, le rapport proportionnel de la contribution et seulement de province à province. Dans ce cas, il sert uniquement à établir une juste et réciproque proportion entre les villes sans toucher aux droits personnels des citoyens. Fin de citation. Ici, le principe de contribution, considéré d'homme à homme, est rejeté comme nul et comme destructif de l'égalité, et aussi comme pernicieux, parce qu'il conduirait à introduire une aristocratie de richesse. Cependant, ce principe ne peut pas être abandonné, et le moyen de se débarrasser de la difficulté, c'est de fixer l'inégalité de département à département, laissant dans chacun d'eux, à tous les individus, une parité parfaite. Observez que cette parité entre les individus avait déjà été entièrement détruite lorsqu'on avait déterminé les qualifications de chacun à l'époque où il s'agissait des départements. Mais il importe peu, dès qu'on détruit l'égalité des hommes, que ce soit en masse ou individuellement. Un individu n'est pas de la même importance dans une masse composée d'un petit nombre que dans une autre masse représentée par un grand nombre. Ce serait en vain que l'on voudrait persuader à un homme, jaloux de son égalité, que l'électeur qui vote pour 3 membres a la même liberté que celui qui vote pour 10. Maintenant, envisagez ceci sous un autre point de vue et supposez que leur principe de représentation, d'après la contribution, c'est-à-dire d'après la richesse, soit bien imaginé et qu'il soit une base nécessaire de leur république. Dans cette troisième base, on voit qu'ils prétendent que les richesses doivent être respectées et que, par justice et par politique, elles devraient, d'une manière ou d'une autre, procurer aux hommes une part plus considérable dans l'administration des affaires publiques. On voit maintenant comment l'Assemblée pourvoit à la prééminence ou même à la sécurité des riches en accordant à leur district, en faveur de leur opulence, cette mesure plus grande de pouvoir qu'il aurait refusée personnellement. J'admets sans hésiter, et je l'établirai comme un principe fondamental, que dans un gouvernement républicain qui a une base démocratique, le riche a besoin d'une sécurité plus grande que dans une monarchie. Il y est plus exposé à l'oppression parce qu'il y est beaucoup plus exposé à l'envie. Dans le plan actuel, il est impossible de deviner quels bénéfices les riches retireront de cet avantage aristocratique sur lequel est fondée la représentation inégale. Ils n'y trouveront ni appui pour leur dignité, ni sécurité pour leur fortune. Car la masse aristocratique dérive purement des principes démocratiques, et la préférence qui lui est donnée dans la représentation générale n'a aucune espèce de rapport avec les propriétés de ceux en faveur desquels cette supériorité de masse est établie. Si les inventeurs de ce plan entendaient favoriser les riches à raison de leur contribution, ils auraient dû accorder ce privilège soit à des individus riches, soit à une certaine classe composée de personnes riches, comme les historiens nous disent que Servius Tullius l'avait fait dans les premiers temps de Rome. Parce que les altercations qui s'élèvent entre le pauvre et le riche ne sont pas des contestations de corporation à corporation, mais d'homme à homme, ni des brigues entre des districts, mais entre des classes différentes d'hommes. Si l'on exécutait ce plan en sens contraire, il atteindrait beaucoup mieux son but, c'est-à-dire si l'on rendait égaux les votes des masses et si dans chacune ils étaient proportionnés à la propriété. Supposons qu'un homme, dans un district, paye en contribution autant que 100 de ses voisins, il n'a qu'un seul vote contre tous. S'il n'y avait qu'un représentant pour la masse entière, ses voisins, pauvres, le survoterait dans la proportion de 100 à 1. Ceci est assez mal. Mais il a des dédommagements à espérer. Comment ? Le district, à cause de sa richesse, au lieu de n'avoir qu'un représentant, en aura 10. C'est-à-dire que parce qu'il paie à lui seul une contribution énorme, il aura le bonheur d'être survoté dans la proportion de 100 à 1 pour la nomination de 10 représentants par le pauvre, au lieu de l'être exactement dans la même proportion pour un seul membre. Dans la vérité, au lieu de profiter par cette représentation plus nombreuse, l'homme riche y trouve une fatigue de plus. Cette augmentation de représentation dans son district met en avant 9 personnes de plus, et il peut se trouver bien au-delà de 9 candidats démocratiques pour cabaler, intriguer et pour flatter le peuple aux dépens et au détriment de ce même riche. Par ce moyen, on offre à la multitude de la classe inférieure l'appât d'obtenir un salaire de 18 francs par jour, ce qui est considérable pour elle, outre le plaisir de demeurer à Paris et de prendre part au gouvernement du royaume. Plus les objets de l'ambition se multiplient et deviennent démocratiques, et plus proportionnellement le riche court de danger. Voilà ce qui aura lieu entre le pauvre et le riche dans une province réputée aristocrate qui, dans ses rapports intérieurs, est l'opposé de ce caractère. Dans ses rapports extérieurs, c'est-à-dire dans ceux qu'elle entretient avec les autres provinces, je ne puis voir comment cette représentation inégale, qui est accordée aux masses, à raison des richesses, peut devenir un moyen de conserver l'équilibre et la tranquillité de la chose publique. Car si l'un de ces objets est d'empêcher le faible d'être froissé par le fort, ce qui indubitablement est le but de toute société, comment les plus pauvres et les plus petites de ces masses seront-elles mises à l'abri de la tyrannie des plus opulents ? Sera-ce en donnant encore à celles-ci des moyens plus amples et fondés sur un meilleur système pour les opprimer ? Lorsque nous venons à la balance de la représentation entre des masses de corporations, il est très vraisemblable que les intérêts des cantons, que les émulations et les rivalités ne tarderont pas plus à s'élever qu'entre les individus séparés. Et même il est probable que leurs divisions occasionneront un esprit de discorde beaucoup plus ardent et quelque chose qui conduira plus rapidement à la guerre civile. Je vois que ces masses aristocratiques ont été faites sur ce que vous appelez le principe de la contribution directe. Il ne peut y avoir de mesure plus inégale que celle-là. Les contributions indirectes, celles qui dérivent des droits sur les consommations, sont réellement une meilleure base et elles suivent la richesse et la dévoilent plus naturellement que ne le peut faire celle des contributions directes. Il est, en vérité, bien difficile de fixer, d'après l'une ou d'après l'autre, ou même d'après toutes les deux, une préférence locale, parce qu'il y a telle province qui peut payer plus que telle autre sur l'une de ses contributions, ou sur toutes deux, non pas par l'effet de quelques causes intrinsèques, mais par les relations mêmes avec ses autres districts, sur lesquels elle a obtenu sa supériorité d'après sa contribution apparente. Si toutes ces masses étaient des corps souverains indépendants qui eussent uniquement à envoyer des fonds à une caisse générale fédérative, si le revenu public n'était pas composé, comme il l'est en effet, de beaucoup d'autres impositions qui circulent dans tout l'ensemble et qui portent sur les hommes individuellement et non pas par corporation et qui, par leur nature, confondent toutes les limites territoriales, on pourrait dire quelque chose à l'appui de cette base de contribution par masse. Mais dans un pays qui considère tous ses districts comme les membres d'un seul tout, il n'y a rien de plus difficile que d'établir sur des principes d'équité une représentation fondée sur la contribution. Car une grande ville, telle que Bordeaux ou Paris, paraît fournir une contribution énorme d'impôts, contribution qui est presque hors de proportion avec toutes les autres villes, et sa masse est considérée en conséquence. Mais ces villes sont-elles les vrais contribuables dans cette proportion ? Non. Tous les consommateurs des marchandises importées en France par Bordeaux, lesquelles sont éparses dans tout le royaume, acquittent à Bordeaux les droits de l'importation. Le commerce d'exportation que le produit des vignes du Languedoc et de la Guyenne fournit à cette ville est pour elle une autre source de ses hautes contributions. Les impositions payées à Paris par les seigneurs des terres, qui y mangent les produits qu'ils en retirent et sont par conséquent les causes de son existence, sont, en faveur de Paris, tirées des provinces qui les fournissent. Il est très remarquable que dans cette règle fondamentale qui détermine la représentation de la masse pour la contribution directe, ils n'ont pas encore fixé comment cette contribution directe sera établie et comment elle sera répartie. Peut-être y a-t-il une politique cachée dans cette étrange conduite relativement à la durée de la présente assemblée. Cependant, jusqu'à ce qu'ils aient pris cette détermination, ils ne peuvent avoir une constitution assurée. Elle doit dépendre enfin du système de taxation et doit changer à chaque variation de ce système. Comme ils ont des matériaux susceptibles de divers plans, leur taxation ne dépend pas autant de leur constitution que leur constitution dépend de leur taxation. Cela doit introduire une grande confusion parmi les masses, de même que la qualification variable pour les votes dans les districts doit, si jamais réellement il survient des élections contestées, causer à l'infini des disputes intérieures. Les mêmes arguments, à peu près, pourraient s'appliquer à la portion représentative donnée relativement à la contribution directe, parce que la contribution directe doit être assise sur la richesse réelle ou présumée, et que cette richesse locale proviendra elle-même de causes non locales, et qui, par conséquent, ne peuvent avec justice produire une préférence locale. Pour comparer ensemble ces trois bases, non pas sous leur rapport politique, mais d'après les idées qui dirigent l'Assemblée, et afin d'essayer de les concilier avec ses propres principes, nous ne pouvons éviter d'observer que le principe que le comité appelle la base de population ne part pas du même point que les deux autres principes qu'elle a appelés base territoriale et base de contribution, qui sont toutes deux d'une nature aristocratique. La conséquence qui en dérive est que, lorsque tous trois commencent à opérer ensemble, il s'établit une inégalité absurde, produite par l'effet de la première sur les deux autres. Chaque municipalité contient 4 lieues carrées et est estimée contenir l'une dans l'autre 4000 habitants ou 680 votants dans les assemblées primaires, lesquelles varient en nombre selon la population de la municipalité et envoient au canton un député par 200 votants. 9 municipalités font un canton. Maintenant, prenons une municipalité dans laquelle il y a une ville avec un port de commerce ou une grande ville manufacturière. Supposons que la population de cette municipalité soit de 12 700 habitants ou 2 193 votants, formant 3 assemblées primaires et envoyant 10 députés au canton. Opposons à cette seule municipalité 2 autres, prises parmi les 8 qui restent dans le même canton. Nous pouvons supposer que celle-ci ait leur population de 4000 habitants et de 680 votants chacune, ou pour les deux, 8000 habitants et 1360 votants. Elles ne formeront que 2 assemblées primaires et elles n'enverront que 6 députés au canton. Lorsque l'assemblée du canton viendra voter sur la base du territoire, qui est le principe premièrement admis dans cette assemblée, la seule municipalité qui n'a que la moitié du territoire des deux autres aura 10 voix contre 6 dans l'élection de 3 députés à l'assemblée du département, et cela d'après la base expresse de la représentation territoriale. Cette inégalité, toute frappante qu'elle est, sera encore plus marquée si nous supposons, comme nous pouvons très justement le faire, que plusieurs des autres municipalités du canton décroîtront autant en population que la municipalité principale les excédera toutes. Venons maintenant à la base de contribution, qui est aussi le principe admis pour opérer d'abord dans l'assemblée du canton. Prenons encore une seule municipalité, comme nous l'avons fait d'abord. Si la totalité des contributions directes payées par une grande ville de commerce ou de manufacture est divisée également parmi les habitants, on trouvera que chaque individu, en suivant le même procédé, paie beaucoup plus qu'un autre individu vivant dans le pays, conformément à la même proportion. La totalité payée par les habitants de la première ville sera certainement plus considérable que celle qui sera fournie par les habitants de la dernière. Nous pouvons aisément évaluer cette différence à un tiers de plus. Alors, les 12 700 habitants, ou le 2193 votants d'une municipalité, paieront autant que 19 050 habitants ou 3289 votants des autres municipalités, ce qui est à peu près la proportion évaluée des habitants et des votants de 5 autres municipalités. Maintenant, les 2193 votants n'enverront, comme nous l'avons dit ci-dessus, que 10 députés à l'Assemblée de canton. Les 3289 votants en enverront 16. Ainsi, pour une part égale dans la contribution de la totalité du canton, il y aura une différence de 16 voix à 10 en votant pour les députés qui doivent être choisis suivant le principe de représenter la contribution générale de tout le canton. En suivant la même manière de calculer, nous trouverons que 15 875 habitants ou 2741 votants des autres municipalités, qui paient 1/6 de moins dans la contribution de tout le canton, auraient 3 voix de plus que 12 700 habitants ou 2193 votants d'une seule municipalité. Telle est l'inégalité fantastique et injuste entre les masses dans cette répartition curieuse des droits de la représentation prise d'après la base territoriale et la base de contribution. Les droits que donne cette division sont dans la vérité des droits négatifs qui sont dans une proportion inverse à leur possession. Sous quelques jours qu'il vous plaise de considérer ces trois bases, je ne vois pas qu'on ait réuni dans un seul tout une variété d'objets. Je vois, au contraire, différents principes qui se fuient par leur nature, principes que vos philosophes ont rapprochés quoiqu'ils soient contradictoires et inconciliables, exactement comme s'ils avaient renfermé des bêtes sauvages dans une même cage pour se déchirer et se détruire mutuellement. Je crains de m'être trop occupé de leur manière de considérer la formation d'une constitution. Ils ont beaucoup de métaphysique, mais elle est vicieuse, beaucoup de géométrie, mais elle est mauvaise, beaucoup d'arithmétique, mais leurs règles de trois ne sont que de fausses positions, et quand toutes ces sciences auraient l'exactitude qu'elles requièrent, et quand leurs plans seraient parfaitement réguliers dans toutes leurs parties, il n'en résulterait qu'une pure vision, plus nette et plus belle. Il est à remarquer que dans un grand arrangement qui a le genre humain pour objet et pour but, ils n'ont rien fait qui soit appuyé sur quelque base ou sur quelque rapport moral ou politique. Rien qui se rapporte aux affaires, aux actions, aux passions et aux intérêts des hommes. Hominem non sapiunt. Ils ne se soucient pas de l'homme. Vous croyez que je considère seulement cette constitution sous son rapport électoral comme conduisant par degrés à l'Assemblée nationale. Je n'entre pas dans l'examen du gouvernement intérieur des départements, ni dans leur généalogie de communes et de cantons. Tous ces gouvernements locaux doivent être, d'après le plan original, composés autant que cela se pourra, de la même manière et d'après les mêmes principes que les assemblées électives. Ils sont tous, chacun pris séparément, des corps parfaitement compacts et circonscrits en eux-mêmes. Vous ne pouvez manquer d'apercevoir dans ce plan que son but direct est de partager la France en une variété de républiques et de les rendre totalement indépendantes les unes des autres sans aucun moyen constitutionnel de cohérence, de connexion ou de subordination. Sauf tout ce qui pourra dériver de l'acquiescement qu'elles feront donner par leurs ambassadeurs dans le Congrès général de toutes ces républiques indépendantes. Telle est en réalité l'Assemblée nationale. Et il existe dans le monde, j'en conviens, de pareils gouvernements. Mais leurs formes sont beaucoup mieux adaptées aux circonstances locales et aux habitudes du peuple qu'ils régissent. Mais de telles associations, quand on ne peut guère les appeler des corps politiques, ont été généralement l'effet de la nécessité et non du choix. Et je crois que le pouvoir actuel de la France est de tous les assemblages d'hommes qui ont obtenu une autorité assez illimitée pour faire de leur pays ce qu'il leur plairait, le premier qui ait choisi de le diviser d'une manière aussi barbare. Il est impossible de ne pas observer qu'avec cet esprit d'une distribution géométrique et d'un arrangement arithmétique, ces prétendus citoyens traitent la France exactement comme un pays conquis. Agissant en conquérant, ils ont imité la politique des vainqueurs les plus farouches, celle de ces hommes féroces qui méprisaient le peuple et insultaient à ses douleurs, a toujours été ce qu'on la voit être aujourd'hui parmi les vôtres, de détruire tous les vestiges de l'ancien pays, dans la religion, dans le gouvernement civil, dans les lois, dans les mœurs, de confondre toutes les limites du territoire, de produire une pauvreté générale, de mettre les propriétés à l'encan, d'humilier les princes, les nobles, les pontifes, d'abaisser tout ce qui s'élevait au-dessus du niveau ou tout ce qui pouvait servir à rallier dans leur détresse, sous le drapeau de l'antique opinion, un peuple sans règles et sans freins. Ils ont rendu la France libre à la manière dont ses amis sincères des droits du genre humain, les Romains, rendirent libre la Grèce, la Macédoine et tant d'autres pays. Ils ont détruit tous les liens de son union sous prétexte de pourvoir à l'indépendance de chacune de ses villes. Lorsque les membres qui composent ces nouvelles corporations de municipalités, de cantons et de départements, arrangements créés exprès au sein de la confusion, commenceront à agir, ils se trouveront presque totalement étrangers les uns aux autres. Tous ces électeurs et ces élus de toutes parts, surtout dans les municipalités rurales, seront souvent dénués de toute espèce d'habitude, de liaison et de ce penchant naturel à la discipline qui est l'âme d'une vraie république. Les magistrats et les collecteurs des revenus publics ne connaissent encore aucunement leur district, ni les évêques leur diocèse, ni les curés leur paroisse. Ces nouvelles colonies des droits de l'homme portent avec elles l'empreinte d'une forte ressemblance avec cette sorte de colonie militaire dont parle Tacite à l'époque de la décadence de la puissance romaine. Dans des temps plus heureux et plus sages, laissant à part leur conduite avec les nations étrangères, ils mettaient tous leurs soins à ce que les éléments d'une subordination et d'un ordre de choses méthodiques fussent contemporains entre eux, et même à poser les bases de la discipline civile dans le militaire. Mais lorsque tous les bons principes de gouvernement furent tombés en ruine, Ils agirent comme le fait votre assemblée, d'après l'égalité des âmes, avec aussi peu de jugement et avec aussi peu d'égard pour toutes les choses qui rendent une république supportable ou durable. Au surplus, dans tout ceci, aussi bien que dans tous les exemples qu'on pourrait en citer, votre nouveau gouvernement a pris naissance, a été élevé et nourri au milieu de toutes les corruptions qui annoncent la dégénération et la fin des républiques. Votre enfant vient au monde avec tous les symptômes de la mort, le facias hippocratica forme le caractère de sa physionomie et le pronostic de sa destinée. Les législateurs qui constituèrent les anciennes républiques savaient que leur tâche était trop difficile pour qu'elle pût être bien remplie sans un autre appareil que toutes les idées métaphysiques d'un élève en philosophie et que les mathématiques ou l'arithmétique d'un commis de la douane. Ils avaient affaire à des hommes, et ils furent obligés d'étudier la nature humaine. Ils avaient affaire à des citoyens, et ils furent obligés d'étudier l'influence que les circonstances de la vie civile ont sur les mœurs. Ils étaient convaincus que l'opération de cette seconde nature sur la première produisait une nouvelle combinaison. Et de là, cette grande variété de distinctions parmi eux. La naissance, l'éducation, la profession, l'âge, le lieu de la demeure, soit à la ville, soit à la campagne. Les moyens employés pour acquérir ou pour conserver des propriétés, la nature même de ces propriétés, tout entrait dans leur calcul. Comme si chacune de ces choses faisait de tous les hommes des êtres différents entre eux. De là dérivait cette nécessité de déterminer d'avance la destinée des citoyens en les classant et de les placer dans l'État de manière que leurs habitudes personnelles puissent les rendre propres à remplir dans toute nature de choses les vues que les circonstances du moment pouvaient faire naître et qui puissent aussi fournir à toutes les classes de citoyens la force nécessaire pour se défendre au milieu des débats qui naissent de la diversité des intérêts, débats qui doivent exister et être en opposition dans toutes les sociétés complexes. Le législateur, en effet, aurait dû être humilié de voir le grossier laboureur savoir faire l'arrangement de son bétail, savoir se servir de ses chevaux, de ses moutons et de ses bœufs, de voir qu'il avait assez de sens commun pour ne pas se livrer à des abstractions et en faire tous des animaux semblables, pour ne pas leur donner à tous la même nourriture ni les mêmes soins, et ne pas en exiger le même service. Tandis que lui, l'économe, l'arbitre et le berger de sa propre espèce, se perdant dans les brouillards d'une sublime métaphysique, s'obstinerait à ne voir autre chose dans son troupeau que des hommes en général. Montesquieu observait avec beaucoup de justesse que, dans l'Antiquité, les grands législateurs avaient développé toute l'étendue de leur savoir, qu'ils s'étaient même élevés au-dessus d'eux-mêmes dans le classement des citoyens. Et c'est en cela que vos législateurs modernes se sont le plus enfoncés dans la profondeur de leur série négative et qu'ils se sont même précipités au-dessous de leur propre néant. Comme les anciens législateurs mettaient un grand prix à partager les hommes en différentes classes et à combiner ensuite toutes ces classes en un seul gouvernement, il était à présumer que les législateurs métaphysiques et chimistes prendraient une route tout à fait opposée. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour confondre toutes les classes de citoyens et pour n'en faire qu'une seule masse homogène. Et alors ils ont partagé cet amalgame en un certain nombre de républiques incohérentes. Ils ont réduit les hommes à l'état de jetons isolés, purement pour le plaisir de compter par simple unité, sans même leur accorder la propriété des chiffres, dont la valeur s'accroît selon le rang qu'ils occupent. Les simples éléments de la métaphysique auraient pu leur donner de meilleures leçons. Leur course autour de leur table catégorique aurait pu leur apprendre qu'il y a quelque chose dans le monde intellectuel outre la substance et la quantité. Ils auraient pu apprendre, dans les éléments de métaphysique, qu'il y a dans chaque délibération complexe 8 divisions de plus, auxquelles ils n'ont jamais pensé, quoique de ces 10, chacune soit le sujet sur lequel le savoir de l'homme peut le plus s'exercer.